Desiderio desideravi, hoc pascam onduc arrivobiscum. Ce à quoi vous me répondrez certainement, quid est hoc idepsias? Ce qui se traduit en français par « c'est quoi ce charabia? Pourquoi il nous cause latin, le curé ?» Desiderio desideravi. Peut-être que ce mot, au moins, là, vous l'avez déjà entendu, puisqu'on a eu une belle encyclique de notre pape dernier. J'ai désiré d'un grand désir. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Cette parole que Jésus va prononcer juste au début de ce repas pascal, au moment de la dernière scène. J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous. Cette parole-là, frères et sœurs, par cette parole par laquelle s'ouvre le récit de la dernière scène, elles sont la fente, la petite fente qui nous permet de voir, qui nous donne la possibilité de percevoir la profondeur de l'amour de la Trinité pour nous, l'amour de Dieu pour nous. J'ai désiré ardemment cette soirée-là. Pierre et Jean, les deux apôtres, ils avaient été envoyés pour préparer cette Pâque, pour faire les préparatifs nécessaires, matériels. Mais si on y regarde de plus près, ce repas-là, toute la création, toute l'histoire de l'humanité était une préparation pour cet instant, ce moment-là. Pierre et les autres sont à table avec le Christ, complètement inconscients de l'enjeu. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Pour eux, c'est une Pâque de plus. Ils ont l'habitude, c'est la fête tous les ans. Ils sont là, on fait ce qu'on leur a demandé. Mais même s'ils sont inconscients, ils sont nécessaires. Il y a besoin d'avoir ces apôtres-là, puisque si quelqu'un vient faire un cadeau, un don, il faut forcément que quelqu'un soit là pour le recevoir. Et ici, il y a un décalage complet entre le don que Jésus veut faire et les apôtres, ce qu'ils sont capables d'en recevoir. Ce que Jésus donne dépasse complètement les apôtres. Et pourtant, par miséricorde de Dieu, le don, le cadeau du Christ est fait aux apôtres afin qu'il soit apporté à tout homme, à toute femme de l'humanité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le cadeau des sacrements, le cadeau de l'Eucharistie que le Christ fait. Ceux qui sont à table ce soir, tous les apôtres, personne n'a gagné sa place. Il n'y en a pas un qui est digne d'être là. Ils ne sont pas dignes. Disons, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont vraiment là. Ils ne savent pas ce qu'ils font autour de la table. Enfin, si, ils suivent Jésus, ça, ils le savent, mais ce que Jésus veut faire, pas si clair. Mais tout le monde a été invité à ce repas-là. Heureux les invités, heureux, bien heureux les invités au repas, au festin des noces de l'agneau. Tout le monde y a été invité, même s'ils ne savent pas tout à fait ce qui s'y passe. Ou plutôt, ils ont été attirés à ce repas comme aimantés, ils y sont venus par le désir ardent de Jésus. C'est Jésus qui avait envie de manger cette Pâque, qui brûlait de cet instant-là. Toute sa vie était tendue vers ce moment-là. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, mes amis. C'est le premier soir où Jésus posera ce nom sur les apôtres, mes amis. J'ai attendu ça toute ma vie. Avant notre réponse, frères et sœurs, avant toute réponse de nous à Dieu, bien avant, il y a d'abord le désir de Dieu pour nous, son désir. On n'en est peut-être même pas conscient, en général, mais à chaque fois qu'on vient à la messe, à chaque fois qu'on participe au sacrement, la raison première, c'est qu'on a été attiré par son désir à lui pour nous. Et de notre côté, la seule réponse possible, qui est d'ailleurs assez compliquée parfois, elle est comme toujours celle de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui. C'est lui qui nous a précédés en toutes choses. Vraiment, toute réception de la communion du corps et du sang du Christ, frères et sœurs, a déjà été d'abord désirée par le Christ lui-même. C'est lui qui avait envie de se donner à chacun de nous et qui nous attend à chaque messe. J'ai brûlé d'un grand désir de manger ce repas avec toi. Cette dernière scène. Ou d'autres paroles. J'ai soif. C'est ce qu'il va dire sur la croix. J'ai soif, pas du vinaigre que tu vas me donner. J'ai soif de toi. J'ai désiré ce moment-là et j'ai soif de ton retour. Tu m'entends pas ? Tu m'entends pas ? Je continue. Ah, frères et sœurs, ce mystère de la dernière scène, c'est d'abord le cœur brûlant du Christ pour nous. C'est ça que nous célébrons. Parlons un peu de la croix, d'ailleurs. Aujourd'hui, on fête ce repas, on a des vêtements lumineux, c'est beau, c'est blanc, c'est la fête. Demain, ce sera rouge, plus âpre. Et c'est quoi le lien entre ces deux moments ? Entre la dernière scène et la croix. Frères et sœurs, le contenu du pain, c'est la croix de Jésus. C'est son sacrifice d'obéissance par amour au Père, pour le Père. Parce que lui, Jésus, dans ce dernier repas qu'il fête avec ses apôtres, lui, il sait très bien que c'est lui l'agneau pascal. Il est l'agneau de Pâques. Il sait qu'il est lui-même la Pâque. Il est en train de tuer un agneau avec ses disciples. Mais dans la tête, il a lui. Il a lui le lendemain. Il sait exactement ce qui va lui arriver. Et il a brûlé d'un grand désir de ce moment-là. Dans ce repas, le Christ ne nous donne pas à manger. Il se donne lui-même. C'est Jésus lui-même qui se donne. Et c'est ça la nouveauté complètement radicale de ce repas. La seule vraie nouveauté de l'histoire, d'ailleurs. Sinon, tout le reste, on ne fait que reproduire des choses qui ont existé. À ce moment-là, ce n'est pas simplement la répétition d'un petit souvenir. Il y a quelque chose de neuf. Dieu se donne directement à nous. La dernière scène était importante pour les apôtres. Quelques heures seulement après cette scène, ils auraient pu voir dans la croix de Jésus s'ils en avaient supporté le poids et l'atrocité, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils auraient pu comprendre ce que voulaient dire les paroles de Jésus quelques heures plus tôt. Corps offert, sang versé. Ils ont vécu ce repas avec Jésus et 12 heures plus tard, ils l'avaient sur la croix devant leurs yeux. Ils n'ont pas tenu jusqu'à la croix, il leur faudra un peu de temps pour comprendre. Mais si nous n'avions pas eu la dernière scène, ce dernier repas, c'est-à-dire si nous n'avions pas eu ce moment un peu rituel, étonnant que Jésus a accompli, nous n'aurions jamais pu saisir comment l'exécution de sa condamnation à mort, cette boucherie horrible, pouvait être l'acte du culte parfait. Comment un homme qui meurt sur une croix pouvait être le salut du monde. Culte parfait, agréable au Père, le seul véritable acte de culte, son amour infini, son acte d'obéissance, son humilité, sa droiture. On n'aurait vu qu'une boucherie, rien d'autre. Et c'est de ça qu'on fait mémoire ce soir, frères et sœurs, dans chaque Eucharistie d'ailleurs. Lorsque le ressuscité revient d'entre les morts pour rompre le pain d'Emmaüs, auprès des disciples d'Emmaüs, ou plus tard quand il va le rompre devant les apôtres qui sont partis pêcher des poissons et pas des hommes, la mer de Galilée, après qu'ils soient enfuis, après la Pâque, quand il reproduit ces gestes-là, alors leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent le ressuscité. Au moment où le Christ reproduit ce sacrement qu'il a institué juste avant sa croix, là, ils entrent dans le mystère. Là, ils entrent dans le mystère. Les guéris de l'aveuglement infligé par l'horreur de la croix, il les rend capables de voir le ressuscité, de croire en sa résurrection. Mes frères et sœurs, cette messe, cette Eucharistie, qui est célébrée depuis les premiers instants de l'Église, L'Église était consciente que ce n'était pas juste une représentation, ce n'est pas un mime de la passion. Même un mime aussi respectueux qu'on puisse imaginer, personne n'aurait osé faire ça, ça n'aurait eu aucun sens. En présence même de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui avait vu son fils mourir, personne ne se serait dit « tenez, on va faire un mime ». Non, c'est beaucoup plus que ça. Ce moment est la présence même du Christ que lui-même a désiré nous laisser en cadeau. Dès le début, l'Église avait compris, éclairée par l'Esprit Saint, que ce qui était visible maintenant de Jésus, ce qui pouvait être vu avec les yeux, ce qui pouvait être touché avec les mains, ses paroles, ses gestes, le caractère concret du Fils de Dieu, du Verbe incarné, tout de lui était passé dans les sacrements de l'Église. Ce n'est plus du pain dans l'Eucharistie, c'est le corps du Christ qui est là, vivant pour nous, ce que le Christ nous a laissé. Nous ne le tuons pas à nouveau dans l'Eucharistie, nous le revivons sacramentellement. Son amour infini pour chacun de nous, contenu là, là-dedans, où il nous redit ces mots, « J'ai désiré d'un grand désir manger ce repas avec toi ce soir. » Puisque ce désir du Christ, son désir infini de pouvoir rétablir nous tous les hommes, cette communion avec nous et le Père, c'était, et elle reste, son projet initial et de toujours. Et cette soif qu'il a, elle ne sera jamais satisfaite tant que tout homme, toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation n'aura pas mangé le corps et le sang du Christ. C'est le désir de Dieu pour nous, de pouvoir partager ce moment-là avec nous. C'est pour ça qu'on reproduit ces gestes-là, Eucharistie après Eucharistie, jusqu'à son retour, fidèlement à ses paroles. Le sacrement de l'amour de Dieu pour nous. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est dur d'en parler de ce mystère-là, puisqu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il nous dépasse complètement. Pas si simple d'accueillir quelque chose qui nous dépasse, qui nous déborde. Les apôtres, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas capables de l'accueillir à ce moment-là. Donc probablement que nous non plus, on ne l'est pas. C'est possible. On refuse Dieu trop souvent, parce qu'on ne comprend pas, ou pour tout un tas de mauvaises raisons. Mais il y a ces gestes qui nous attirent, qui nous choquent en même temps, mais qui nous attirent. Il y a ces paroles, il y a cette présence qui nous aimante presque et qui nous dit « reviens ». Ça arrive beaucoup, j'entends des catéchumènes et parfois des confirmants qui reviennent, ils ne savent même pas pourquoi ils avancent au début. Juste, ils savent une chose, quand je suis là, il se passe quelque chose. Ça nous dépasse, mais il est là. Et pourtant, quand il s'approche de nous, assez vite, on est capable de réagir comme Pierre, en disant « non, non Seigneur, non pas ça, non c'est pas possible, tu peux pas t'abaisser pour moi, tu peux pas me laver les pieds, pas moi, pas quand tu connais ma vie ». Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, frères et sœurs, c'est un mystère qui nous dépasse et seul le Christ lui-même, seul Jésus peut nous y introduire. Acceptons d'être dépassés. Laisse-toi conduire par lui, entre dans ce mystère, par la porte de la foi, sans chercher à le réduire parce que tu en connais uniquement. Il est grand, le mystère de la foi, c'est ce que nous proclamons. Il est grand, il nous déborde et pourtant... si simple d'avancer, de se laisser conduire par le Christ. Cette liturgie et pour tout ce tridium, ce sont des gestes forts qui sont là. Chaque geste dit la présence de Dieu qui est là et qui vit et qui fait ces gestes pour chacun d'entre nous. Le geste que je vais poser comme prêtre, c'est le Christ lui-même qui le pose pour chacun d'entre nous encore. Nous tous, nous pouvons le regarder. Entrons dans ce tridium en ne quittant pas le Christ des yeux. Regardons ce mystère d'un Dieu qui nous a aimés dès avant notre naissance et qui nous aimera jusqu'au bout. Amen.